Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Niamey.
Bonjour à tous, merci, quel accueil, merci au public d'être venu au Centre culturel Oumaru Ganda pour participer à notre deuxième et dernière émission à Niamey. Ce matin, je vous propose une sorte de radioscopie du pays. Durant près d'une heure, nous allons dresser un état des lieux de la situation au Niger. On parlera lutte contre le terrorisme, développement, démocratie, éducation, perspectives d'avenir pour les jeunes. On parlera de plein d'autres sujets et ce sera évidemment l'occasion de dresser une sorte de bilan de la décennie Issoufou, puisque vous le savez, Mahamadou Issoufou qui, conformément à la Constitution, ne briguera pas de troisième mandat l'année prochaine. Il va donc céder la présidence à un successeur élu. L'heure est donc au bilan. Et vous qui êtes justement présent dans cet amphithéâtre, eh bien, on va vous donner le micro ce matin et vous allez nous dire quel bilan finalement vous dressez de ces deux quinquennats. Pour dialoguer avec vous, pour dialoguer avec le public, trois invités, merci de les accueillir. Ahmad Djidoud, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Ministre délégué au budget, à vos côtés Abdoulaye Garba, bonjour.
Bonjour. Hein.
Coordinateur de la CAPEJ, la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale. C'est une cellule qui est chargée finalement de suivre l'action du gouvernement, ministère par ministère. Alors vous n'êtes pas indépendant, hein, vous êtes rattaché à la primature, c'est bien de le rappeler. Et puis enfin, mon troisième invité, Moussa Tchangari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, une organisation de la société civile au Niger. Bonjour Moussa Tchangari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce débat, ce dialogue sans langue de bois. Dites-vous les uns et les autres ce que vous pensez. Dites-vous la vérité. On prend le temps ce matin de dialoguer et on est venu pour ça justement à Niamey ces deux jours-ci, pour dialoguer et débattre sur les grands sujets qui vous marquent. On va commencer avec le public qui est très nombreux. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Gomez. Permettez-moi d'abord de ne pas déroger à une tradition qui est celle de rendre un hommage, un vibrant hommage à l'ensemble de nos FDS tombés sous le champ d'honneur, qui ont fait le choix de sacrifier leur vie pour que nous puissions dormir tranquillement.
Les militaires de l'armée nigérienne.
C'est exact. Donc, sur ce, j'aimerais préciser, j'aimerais vraiment mettre le décor. Le Niger n'a pas choisi d'être en insécurité. Ce sont des guerres qui nous ont été imposées, qui tirent leur origine de la mauvaise gestion de la crise libyenne. À son temps, le président Issoufou l'avait si bien rappelé, après l'intervention de l'OTAN en Libye, qu'il fallait faire le service après-vente. Le service après-vente n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de cette mauvaise politique de la communauté internationale. Nous devons, nous, aujourd'hui, trouver les solutions pour les maux qui minent aujourd'hui la sécurité, non pas du Niger, mais de tout le Sahel.
Oui. Quand vous dites que votre pays est victime des interventions extérieures, je précise pour ceux qui n'ont pas la carte du Niger en tête, alors, il y a la Libye, il y a le Nigeria, il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Que vous êtes entouré de voisins où la situation sécuritaire est préoccupante?
C'est exact, Monsieur Gomez. Le Niger est au centre de quatre principaux foyers de tension que nous n'avons pas choisis. Nous avons le malheur d'être entourés par ces quatre pays. Mais j'aimerais préciser quelque chose, Monsieur Gomez. Le Niger, dans toute la bande sahélo-saharienne, aujourd'hui, en matière de questions de sécurité, le Niger, malgré les difficultés que nous avons, le Niger reste le meilleur élève en matière de la gestion des questions sécuritaires.
On va voir si votre voisin est d'accord avec vous. Le Niger, meilleur élève dans la lutte contre le terrorisme. Bonjour Sambo.
Bonjour Rohan.
Bienvenue, on vous écoute et les invités vous écoutent
merci,
également.
Merci, merci beaucoup. Je parlais, je pense que sur votre antenne, par rapport à l'existence des bases étrangères sur le sol nigérien. En quelque sorte, ça attise cette haine-là des terroristes contre le pays du Sahel. Parce que la première cible, c'est l'Occident, tout le monde le sait. Parce qu'à un certain moment, si je me suis dit, il procède à l'enlèvement des Occidentaux qui sont dans le Sahel et en contrepartie les échanges. Peut-être par une rançon.
Oui.
Avec cela, ils font les moyens de leur politique pour atteindre leur objectif.
Donc vous remettez en cause la présence des forces étrangères
évidemment,
ici au Niger.
Évidemment, je dis
mais pourquoi
à ce niveau, parce que je crois et je crois à notre armée parce qu'elle a fait ses preuves à un certain moment. Qu'on le dise ou pas, parce que notre armée a l'habitude de faire face à des guerres, si je peux le dire. Parce que les rébellions qui ont existé au Niger, elles sont à l'image de ce terrorisme, là où la guerre n'est pas du tout conventionnelle.
On a bien entendu vos commentaires. Je voudrais que Monsieur le ministre puisse réagir déjà à ces deux premières réactions concernant la situation sécuritaire dans votre pays.
De prime abord, je voudrais souligner que la question de la sécurité, c'est d'abord une question existentielle. S'il n'y avait pas de sécurité dans ces pays, on ne serait pas là à débattre d'autres questions. C'est une question existentielle parce qu'aujourd'hui aussi, le terrorisme constitue une menace d'ordre stratégique dont l'objectif fondamental, c'est de détruire l'existence même de nos États. Et c'est conscient de cette réalité, c'est conscient de cette menace dont ils en ont fait cas du fait de son amplification par la dislocation de l'État libyen avec ce qu'on connaît en 2011. Que le président de la République, quand il allait venir au pouvoir, il a ciblé un taux de 10% des ressources qui doivent être allouées pour garantir la sécurité de notre pays, l'intégralité territoriale de notre pays.
Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les 10% du budget national
bien sûr, aujourd'hui,
qui sont consacrés à
la
réalité,
sécurité. La réalité du fait et l'amplification de la menace a fait que de l'exécution, nous sommes à un taux de 17% des ressources budgétaires qui sont allouées depuis les 8 dernières années pour la sécurité. Et cela suppose, parce que tout à l'heure quelqu'un l'avait dit, cela suppose que c'est aussi minimum 7% des ressources en moyenne, c'est plus de 700 milliards qu'on aurait pu mettre dans d'autres secteurs sociaux de base.
On aura
mais
l'occasion.
Qu'on ait aujourd'hui dans la sécurité pour que nous tous ici, nous puissions dormir tranquillement.
On
chez
aura
nous.
L'occasion justement de revenir sur les autres secteurs prioritaires. Moussa Tchangari, un auditeur disait on veut en finir avec la présence des forces étrangères. Et vous aurez l'occasion, monsieur le ministre, de réagir. Vous trouvez légitime, Moussa Tchangari, ce type de discours? Dehors les forces étrangères qui sont là, théoriquement, pour sécuriser le pays.
Bon, merci. C'est la campagne que nous menons depuis plusieurs années, disant que si nous acceptons la présence chez nous des forces étrangères, nous aurons encore plus de problèmes. Ces forces sont là, malheureusement, et je pense que notre message, nos actions sont très claires. Nous voulons le départ des forces étrangères parce que nous ne croyons pas que les forces étrangères vont sécuriser le pays.
Alors,
et ce n'est même pas leur objectif.
Quel est l'objectif des forces étrangères alors?
Non, écoutez, les forces étrangères, que ce soit les forces américaines, les forces françaises, etc., ce sont des forces impérialistes. Il y a une situation qui s'est créée. Elles ont l'opportunité, ces puissances-là, de prendre le contrôle d'un pays. Et voilà, donc c'est une opportunité qui est là.
Alors,
mais je voulais réagir.
Je voudrais que le ministre réagisse à vos propos, monsieur le ministre. N'y a-t-il pas une perte de souveraineté en confiant la sécurité de votre pays à des forces étrangères?
Je relève quand même l'incohérence intellectuelle de monsieur Tchangari qui nous parle de... qui nous parle de la présence étrangère comme une perte de souveraineté. Moi, j'avais relevé l'effort de guerre que ça nous coûte de faire, d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et cela suppose que si nous n'avions pas le soutien et l'appui technique de nos partenaires, que je ne qualifie pas de forces étrangères, mais plutôt de forces amies, parce que c'est nécessaire pour mutualiser les efforts, je l'avais dit, la sécurité est une question existentielle. Si on n'avait pas cet effort, si on n'avait pas cet appui, on aurait pu peut-être être à 50% de notre budget qui serait alloué à la question sécuritaire. Donc je pense qu'il est important de s'assurer que le travail que nous faisons avec nos partenaires soit efficace. Et c'est ça, aujourd'hui, nous voyons le résultat de part et d'autre.
Je vais donner le micro à Abdoulaye Garba, évidemment, dans un instant. Mais je voudrais que le public qui m'interpelle, qui veut parler, puisse le faire, évidemment. Bonjour Zainab.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, Zainab.
Oui.
Et vous souhaitiez nous parler également de la lutte contre l'insécurité?
Évidemment. J'aimerais d'abord commencer à dire qu'il nous faut une réconciliation. La réconciliation de tous les enfants de la patrie. On doit appartenir à une et une seule mère qui est le Niger.
Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les Nigériens sont divisés sur question sécuritaire?
Par la politique. Par la politique. On est divisé par la politique. Les politiciens, nos dirigeants sont en train de nous diviser. Lui, il vient, il nous dit ceci. quelqu'un d'autre va venir, il va nous dire ceci. On est divisé. Oui. Je lance un message à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par la politique.
Justement, vous avez 24 ans, Zainab. Comment envisagez-vous votre avenir dans un pays comme le Niger où l'insécurité fait partie du quotidien?
Je vois pas de l'avenir oui. dans un pays où il n'y a pas de sécurité.
Oui. Moussa Tchangari, cette jeune, vous avez envie de la rassurer, j'imagine, et lui dire que son avenir est ici, vous qui êtes membre de la société civile.
Bon, je n'ai même pas besoin normalement de les rassurer. Ils sont jeunes, ils doivent avoir la force, le courage de se battre. Évidemment, c'est eux qui doivent nous donner de l'espoir à nous, les plus anciens. Et on attend d'eux qu'ils soient capables d'assumer leur rôle de jeunes, qu'ils se battent contre toutes ces injustices qui sont en train d'avoir cours. Et c'est les jeunes qui vont transformer ces pays. S'ils attendent que nous, on les rassure, je pense qu'ils font fausse route. Si les jeunes attendent autre chose, c'est trop grave.
Alors,
c'est à vous de faire.
C'est à vous de faire. Voilà la réponse, Zainab, de Moussa Tchangari. Je vous présente, messieurs, Mahamadou. Bonjour.
Bonjour, Rouen.
Vous avez le micro, RFI. Parlez-nous de votre programme destiné à la jeunesse et destiné justement à lutter contre la radicalisation d'une partie de la société nigérienne.
Ce programme, c'est pour répondre à des jeunes qui ont perdu espoir, qui disent qu'on n'a pas d'avenir dans ces pays. Donc nous avons instauré ce programme pour donner de l'espoir à cette jeunesse.
Et comment vous leur donnez l'espoir? Quelles solutions vous leur proposez?
Les solutions, Rouen, ça passe par la sensibilisation. Aujourd'hui, les jeunes qui sont enrôlés dans les mouvements terroristes, il faut qu'ils puissent savoir qu'ils n'ont pas d'avenir dans l'autre côté du terrorisme. C'est des jeunes qui viennent les vendre des rêves. Donc, il faut qu'ils puissent être préparés, que ces jeunes-là puissent être outillés pour dire non. Parce qu'une fois qu'ils rejoignent ces groupes terroristes, ils n'ont plus d'avenir. L'avenir, c'est soit la prison ou bien la mort.
Il y a un mot que j'aime dans vos propos, c'est la sensibilisation. Monsieur le ministre, de quels moyens dispose aujourd'hui le gouvernement et l'État pour justement sensibiliser cette jeunesse qui pourrait à un moment donné être tentée de se diriger vers un islamisme djihadiste, radical? Que proposez-vous concrètement?
Non, mais je pense que je suis en partie d'accord avec Tchangari quand il dit que c'est à la jeunesse de se donner aussi en partie les moyens de sa réussite. Aujourd'hui, le gouvernement prépare un certain nombre de mesures et un certain nombre de mécanismes sont déjà en place pour accompagner le jeune, notamment dans la création d'entreprises. Parce que il s'agit, la question de l'insécurité, c'est à la fois une question, la réponse est à la fois militaire, mais aussi c'est à la fois en termes de développement. Ici, on parle de développement parce qu'il faut créer les opportunités de création d'emplois pour le jeune. Que ce soit en termes de leur propre création d'entreprise, mais aussi en termes de formation, pour pouvoir leur donner les moyens eux-mêmes d'être sur le marché du travail.
Je me mets à la place de tous les jeunes qui sont en train de vous écouter ce matin. Vous dites il faut qu'on mette à la disposition des jeunes les moyens. Mais qu'attendez-vous pour les mettre, ces moyens à la disposition des jeunes?
Mais tout à fait, les moyens sont là. Il suffit de voir le nombre d'emplois. Il suffit de voir le nombre d'emplois qui ont été créés à la destination de la jeunesse.
Combien?
Il suffit de...
Combien?
Plus d'un million d'emplois de jeunes.
Un million en...
Un million.
Un million depuis quand?
Un million d'emplois de jeunes.
S'il vous plaît.
Créé.
S'il vous plaît. Visiblement, une partie du public... Où sont-ils? Alors, on a entendu là, il y a une partie du public qui crie, qui scande, où sont-ils? Laissez le ministre vous répondre, monsieur le ministre.
Donc, je disais que l'ensemble des programmes que nous avons mis en œuvre, notamment en ce qui concerne la promotion des emplois de jeunes, ont créé plus d'un million d'emplois qui ont concerné la jeunesse.
Depuis 10 ans.
Depuis les 8 ans. Au-delà.
Visiblement, une partie des jeunes présents ici attendent davantage. Moussa Tchangari, le discours du ministre, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises. Qu'avez-vous envie de lui répondre et quelle solution vous pourriez-vous, en tant que société civile, apporter sur la table du ministre?
Bon, je ne sais même pas si je dois répondre quelque... Parce que le public a déjà répondu. Je pense que ce gouvernement n'a même pas conscience que la question de l'emploi des jeunes est une question de sécurité nationale. Selon moi, c'est très clair. Ils ne sont pas en train de faire quoi que ce soit.
Oui.
Et donc, donc je n'ai pas besoin de faire de longs commentaires.
Pas davantage de commentaires. Allez, un dernier auditeur et on rend l'antenne à Paris pour le journal. Ali Dodo, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
On vous écoute. Toujours sur cette thématique de l'insécurité et surtout de ce que cela coûte au pays.
Oui, quand il faut se rendre compte d'une chose. Lorsque la guerre coûte, s'il faut parler de l'insécurité, elle coûte plus d'un milliard par jour. Dans un pays où nous avons 70% de la jeunesse, jeunesse qui, quand on regarde de ces 70%-là, un pays comme le Niger où tout est prioritaire, lorsqu'on regarde le domaine de la santé, de l'éducation, l'éducation surtout quand je parle du préscolaire jusqu'au supérieur, on voit bien qu'on a tout est prioritaire. Alors là, une guerre qui nous coûte à peu près plus d'un milliard par jour, alors nous avons une jeunesse, un pays où on a 70% de jeunes. De ces 70%-là, on a 3 millions qui ont entre 15 et 24 ans.
Ah oui.
3 millions, entre 15 et 24 ans. Donc là, c'est extrêmement délicat lorsqu'on a une situation qui nous est imposée. Ce n'est du tout pas facile pour un pays comme le nôtre.
Oui.
Alors, ça coûte... Oui.
Ça coûte trop cher au pays.
Ça coûte trop cher au pays.
Vous avez dit, il y a un chiffre qui m'interpelle. Monsieur le ministre, cette guerre coûte 1 milliard de francs CFA par jour au pays. C'est un chiffre que vous validez?
Moi, je venais d'avancer le chiffre global. Naturellement, c'est peut-être un arithméticien qui me parle. Mais je disais que pour nous, au niveau du budget, ça nous coûte en moyenne 17% de notre budget sur les 8 dernières années que nous allouons à la sécurité.
Oui.
Et je disais que si vous faites le pourcentage sur les ressources mobilisées, c'est plus de 12 000 milliards qu'on a mobilisés au cours de ces 8 dernières années. Et à 17%, je pense que le chiffre, c'est quand même colossal.
Moussa Tchangari va certainement vous contredire. 17%, est-ce que c'est justifié selon vous?
En tout cas, 17% et les résultats ne sont pas là. C'est le résultat qu'il faut regarder. Le résultat, c'est que si vous allez à Tillaberi, si vous allez à Diffa, vous n'avez pas les résultats concrètement. Et puis... on sait que une bonne partie de cet argent-là est peut-être plus ou moins engloutie par d'autres choses. Sur le terrain, la situation est très déplorable et contrairement à ce qu'on vous dit, il y a des portions de notre territoire qui sont clairement occupées par les forces terroristes, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas dire qu'on a dépensé 17% et qu'on a des résultats. Pour moi, on n'a pas de résultats.
Abdoulaye Garba, vous êtes le monsieur des chiffres. Dans cette émission, vous contrôlez l'action du gouvernement ministère par ministère. Ce chiffre de 17%, il interpelle plus d'un Nigérien en se disant « Oui, il faut lutter contre l'insécurité, mais il faut aussi accorder plus d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour d'autres secteurs vitaux. »
Merci, Ron. Ce qu'il faut dire, 17%, c'est vrai. La cible du président de la République, c'est 10%. On est à 17%. Mais attention, l'éducation est à 22%. Non.
13%.
S'il vous plaît.
Alors, attendez.
Je m'inscris totalement. En fait. Alors, 13%.
Alors,
laisse-moi parler.
Moussa Tchangari n'est pas d'accord, mais laissez Abdoulaye Garba développer son argument. Allez-y, Moussa.
L'éducation, c'est 13%.
S'il vous plaît. Moussa,
alors,
depuis que Mamadou Sou est là, il a fait une seule fois 17%.
Alors jusqu'à présent, non, Moussa Tchangari, Abdoulaye Garba vous a toujours écouté, donc écoutons son explication. Donc combien de pourcents pour l'éducation?
L'éducation, en 2018, on est à 22%.
22.
C'est faux,
vous l'avez dit Moussa Tchangari.
L'agriculture,
oui.
C'est faux.
Ces données, vous allez les retrouver au niveau des organisations internationales. Ce n'est pas les affirmations gratuites telles que Moussa les dise, non. Ce sont des données, c'est des enquêtes. Et maintenant, Moussa, si tu as une analyse, une étude scientifique qui a démontré 12% ou moins, amène-le. Nous, à chaque fois, quand nous élaborons le rapport sur l'action gouvernementale...
Il y a Moussa Tchangari qui vient avec tous ses dossiers. Il ne fallait pas l'interpeller, monsieur Abdoulaye Garba, avec tous ses dossiers. Bon, vous savez quoi? Je vais marquer une pause. On rend l'antenne à Paris pour le journal. Et on revient dans 10 minutes dans cette ambiance extrêmement chaleureuse de Niamey. A tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.